le journal Mimi Ngumba. Bonjour à tous. Déploiement à Rutshuru au nord Kivu des éléments de la 2e brigade intégrée venue de Kitona, c'est en remplacement de la 5e brigade. En même temps, la population parle de certaines poches de résistance des insurgés à l'intérieur du territoire. Un centre de fusion d'informations entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la RDC ouvert ce lundi à Kisangani. C'est un financement des États-Unis d'Amérique. Médecins sans frontières Espagne décide de réduire ses activités dans la zone de santé des Nyunzu au Katanga. Mais les autorités civiles de Nyunzu parlent déjà d'une situation critique. Encore une fois, bonjour. Au nord Kivu, les remplacements de la 5e brigade intégrée basée à Rutshuru a commencé. Les éléments de la 2e brigade intégrée venus de Kitona ont commencé à être déployés sur le terrain, mais il leur faudra encore une à deux semaines pour prendre effectivement possession de leur position. Entre-temps, les habitants de Rutshuru signalent certaines poches de résistance des insurgés à l'intérieur du territoire. Jules Ngala a séjourné à Rutshuru ce week-end, suivant son reportage.
C'est depuis dimanche soir que les éléments de la 2e brigade intégrée venus de Kitona via Kinshasa ont commencé à se déployer dans le territoire de Rutshuru. À bord d'une dizaine de camions civils apprêtés par l'armée et chacun avec son arme individuelle, ils chantaient et scandaient des chansons diverses en Lingala. Les autorités militaires de la province ne donnent aucune précision quant à leur nombre. Ils se limitent tout simplement à indiquer qu'il s'agit là d'un premier groupe sur les effectifs de toute une brigade a déployé dans ce secteur qui a été le théâtre il y a deux semaines d'affrontements entre les militaires loyalistes de la 5e brigade intégrée et des insurgés mal connus jusqu'à présent. La 2e brigade intégrée est appelée à remplacer la 5e brigade intégrée mutée dans le Kasaï occidental. À Rutshuru, certains habitants déclarent que la localité de Kibirizi, une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de Rutshuru, serait encore occupée par les insurgés. Ceux-ci n'auraient pas non plus évacué, selon la même source, la ferme de Matébé située à 7 km dans la localité de Rangira, groupement de Djomba. La présence des insurgés à Matébé apparaît même tellement évidente pour certains habitants de Rutshuru que beaucoup parmi eux, réfugiés à Goma depuis le début des événements, hésitent toujours à regagner leur maison malgré l'absence des combats sur le terrain. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent au sud Kivu où 34 personnes sont toujours emprisonnées à Bukavu jusque ce lundi matin après les incidents survenus samedi au Bit Mwanzi. Des enfants de la rue avaient manifesté après la mort d'un jeune homme décédé après une tentative d'interpellation dans ce marché de Bukavu. À l'origine de ces incidents, la décision du maire de la ville de fermer quelques maisonnettes qui servaient des refuges à ses enfants et à des prostituées. La police dit avoir arrêté plusieurs personnes en essayant de rétablir l'ordre lorsque ses enfants sont partis attaquer l'hôpital où leur collègue a succombé à ses blessures. Explication de l'inspecteur Michel Bonakenge, commandant ville de la police à Bukavu, au micro de Serge Maéché.
Nous avons arrêté au total 51 personnes, et dont 17 mineurs et 34 majeurs. Et les mineurs ont été mis à la disposition des ONG qui sont chargées de la protection de l'enfance. Et les 34 majeurs ont été mis à la disposition du procureur de la République. Mais avant cela, ils devaient être entendus, ils devaient être aussi, ils devaient répondre de leurs actes.
Mais on dit que ce matin, il y avait encore des enfants qui sont en train de perdre connaissance à cause de la faim.
Et nous savons que bon, ils ne peuvent que il y a beaucoup de simulations dans cette histoire. Ce sont les enfants de la rue qui sont majeurs, qui ne travaillent pas là-bas. Ah ben, ils sont là-bas seulement pour causer du désordre. Ce sont ceux-là maintenant qui sont à la disposition du procureur de la République et qui doivent être mis à chose en prison.
Notez également que 17 mineurs ont été relâchés après ces interpellations et remis à des ONG de protection dès l'enfance. De l'autre côté, à Mbujimayi, dans les Kasaï orientaux, l'inauguration du centre d'orientation de Lukelenge par les autorités provinciales. Plusieurs ex-combattants sont attendus en vue de leur démobilisation. Sachez que c'est l'unique centre d'orientation pour le Kasaï oriental. Le détail, c'est avec Julien Nyamouini.
Ce centre d'orientation est situé à 12 km de Mbujimayi, un centre qui attend, selon les directeurs en charge de la démobilisation de la CONADER, Commission nationale pour la démobilisation et la réinsertion, plusieurs centaines d'hommes qui veulent quitter ou intégrer les FRDC. Processus obligatoire, a-t-il rappelé, pour une paix durable. Ces ex-combattants, a-t-il noté, ont besoin du soutien moral de tous pour mieux répondre aux obligations de la nation. Patrick Balouba, vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives, a souligné quant à lui que ce centre rêvait d'une importance capitale, d'autant plus qu'il s'agit d'une bonne intégration des hommes en armes pour assurer un bon processus de paix voulu par tous. Pas de chiffres pour l'instant en ce qui concerne le premier candidat à la démobilisation. Tous les gestionnaires ou presque sont optimistes quant à la réussite de l'opération. Reste sans doute la réaction mitigée de populations environnantes quant à la présence de ces centres d'orientation dans ces sites. Julien Nyamwani, Lukelenge, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, ouverture c'est lundi à Kisangani dans la province orientale du centre des fusions d'informations entre le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la RDC. Il est financé par les États-Unis d'Amérique. Ces centres connaîtra la participation des missions des Nations Unies en RDC et au Burundi. Plus de détails, c'est avec José de Chartomenga.
Le centre des fusions d'informations a été créé à l'issue d'un accord signé entre les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda. Le Burundi, quatrième État parti, s'est joint par la suite. Son objectif est d'échanger des informations sur les groupes armés qui déstabilisent la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Chaque État est représenté par 6 membres. La MONUC et l'ONUB, la mission des Nations Unies au Burundi, y sont représentés par un délégué chacune. Ce centre implanté au bord de la rivière Tchopo fonctionnera ici à Kisangani avec un satellite et d'autres matériels fournis par le gouvernement américain. Le représentant des États-Unis précise que ce centre de fusion ne va pas s'ingérer dans les activités normales des services de renseignement des pays membres. En direct du centre de fusion à Kisangani, José de Chartemenga, Radio Okapi.
Restons dans la province orientale où le groupe Lotus, une organisation des défenses de droits de l'homme basée à Kisangani, réagit à l'incompétence déclarée par la Cour internationale de justice à juger la plainte de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Le groupe Lotus reconnaît la pertinence de la décision de la CIJ qui ne peut pas juger un pays qui ne reconnaît pas sa compétence, notamment le Rwanda. Mais le président de cette ONG des défenses de droits de l'homme se dit ne pas être d'accord quant à la deuxième raison avancée par la Cour, à savoir le manque de base juridique suffisante. Dismas Kitenge est au micro d'André Kitenge. Suivez.
Je ne suis pas tout à fait d'accord puisque cela va à l'encontre même de certaines résolutions du Conseil de sécurité qui ont été claires à la matière, qui avaient reconnu les violations de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda. Et là, je dois parler de la résolution 13-14, je crois, mais si je m'abuse un peu sur le numéro de la résolution. Mais j'invoque la résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité le lendemain de la guerre des 6 jours à Kisangani, qui avait clairement condamné le Rwanda et l'Ouganda d'avoir violé le territoire de la RDC et aussi d'être responsable des graves violations des droits de l'homme. Donc, si on ne prend que ces exemples-là, violation de l'intégrité territoriale de la RDC, violation grave de droits de l'homme commises par ces pays, donc particulièrement pour le cas du Rwanda, si on prend aussi le pillage des ressources naturelles du Congo à travers les rapports des experts de la RDC, les bases juridiques sont là. Mais je pense que le seul argument, à mon sens, qui a prévalu pour que la Cour se déclare incompétente, c'est le défaut de consentement du Rwanda à reconnaître la compétence de la Cour pour statuer sur ces litiges.
Kinshasa à présent, poursuite ce lundi au Parlement de l'examen de la loi électorale. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis ont déjà adopté la moitié de cette loi. Il s'agit entre autres des conditions d'éligibilité des candidats à suivre à partir donc de ce lundi des matières relatives à la circonscription électorale pour le vote des parlementaires. Jean-Claude Toumba Kamanga.
Le Parlement a déjà adopté le nombre des futurs députés nationaux et sénateurs. L'Assemblée nationale comptera 500 députés et le Sénat 108 membres. À propos des circonscriptions électorales, le Parlement considère tous les territoires et villes actuelles pour la désignation des députés nationaux. Mais une exception pour la ville-province de Kinshasa, où ces députés sortiront des communes regroupées en 4 circonscriptions électorales. Par contre, pour le vote des sénateurs, le Parlement va considérer le découpage prévu par la nouvelle constitution approuvée au référendum, une constitution qui reconnaît 26 provinces. Chaque province désignera 4 sénateurs et Kinshasa en aura 8, soit le double. Reste à connaître le nombre définitif des personnes enrôlées avant de fixer le quotient électoral. C'est ce quotient qui permettra de déterminer combien de sièges accordés à chaque circonscription électorale.
Kinshasa, toujours, parlons à présent de l'ouverture du premier congrès du PPRD. Prennent part aux travaux tous les délégués venus de tous les coins de la République démocratique du Congo et d'autres invités de plusieurs pays d'Afrique. Encore une fois, les détails avec vous, Jean-Claude Toumba Kamanga.
Oui, jusque-là, Mimi, le congrès du PPRD n'a pas encore investi ses candidats aux prochaines élections, notamment le candidat à président de la République. Mais sachez que ce congrès s'est ouvert avec notamment un discours du vice-président de la République, Yerodia Abdoulaye Ndombassi, en l'absence du président Joseph Kabila, leader du PPRD. Yerodia, qui a présenté le frère de Joseph Kabila et sa sœur présents dans la salle de la Fikine, a dit aux milliers de militants du PPRD, je cite, « Ces enfants, je les ai vus naître et grandir ». Yerodia dira ensuite que Joseph Kabila est l'homme qu'il faut pour gérer la RDC à l'issue des prochaines élections. Le vice-président Yerodia s'en est pris ensuite aux adversaires du PPRD. Parmi les personnes prises à partie figure le leader de l'UDPS. Sans le nommer, Yerodia l'a qualifié d'ayatollah pour ses positions face au processus électoral. Comme le MLC, le PPRD a invité ses amis de l'extérieur. Ils sont nombreux et passent tour à tour à la tribune pour dire un mot. On peut citer le parti ZANU-PF de Robert Mugabe, le Chama Pinduzi de Tanzanie, le MPLA de Eduardo Dos Santos d'Angola, le PCT de Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, le Parti socialiste belge et j'en passe. Il continue à défiler et le président Joseph Kabila n'est pas encore arrivé dans la salle. La cérémonie, je vous signale, est retransmise en direct à la Radio-Télévision nationale congolaise.
Merci à vous Jean-Claude Toumba Kamanga pour toutes ces précisions. Toujours à Kinshasa, pas de destruction des constructions anarchiques, c'est lundi dans la capitale. Déclaration hier du gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbembe Mazunga, affirme qu'il compte plutôt poursuivre avec la campagne d'information de personnes concernées. Cependant, il affirme que la menace des destructions n'est pas écartée. Kimbembe Mazunga signale aussi que les fonctionnaires de l'État impliqués dans la vente illicite de sites publics seront également sanctionné. Il a été joint au téléphone par Nicole Koudiangela.
Je vous informe qu'il y a eu un arrêté interministériel qui a été signé à la suite de l'arrêté 06 du 7 janvier, signé par son Excellence le ministre des Affaires foncières. Alors, ce nouvel arrêté signé implique tous les ministères concernés, dont l'intérieur, l'économie, l'urbanisme et les affaires foncières, et instruit la ville, une nouvelle fois de plus, à procéder à la démolition des différents sites. Alors, entre-temps, entre le moment où nous, on a promulgué l'arrêté que j'étais tout à l'heure, et les gens avaient présenté leurs moyens de défense. Il y en a qui ont présenté des documents et revient à l'administration de vérifier l'authenticité de ces documents et au cas où les documents étaient authentiques, de procéder à la sanction des fonctionnaires véreux qui avaient floué et l'État et ses compatriotes.
Rendons-nous maintenant au Nord Katanga. Médecins sans frontières Espagne décide de réduire ses activités dans la zone de santé des Nyunzu. Selon l'administrateur du territoire, le nouveau protocole signé entre MSF Espagne et la zone de santé des Nyunzu limite les activités de cette ONG à 3 centres de santé seulement sur 17. Cette mesure sera appliquée dès le 1er avril prochain. Information confirmée par les responsables de MSF Espagne. Mais de leur côté, les autorités civiles de Nyunzu parlent déjà d'un malaise parmi la population. Un reportage signé Expedi Mwamba Mubi.
Selon l'administrateur de territoire ad intérim de Nyunzu, l'annonce de la réduction du programme d'appui au centre de santé suscite déjà un malaise social. Prosper Nyabobia Kouchala.
La population n'est pas très contente à ça. Vous voyez, il y a des centres, par exemple, à Kalima, quelques 70 km de Nyunzu, demander à un malade de quitter Kalima pour suivre les centres, les soins à Nyunzu. Alors, c'est un problème. Ce matin, j'étais avec le nouveau coordinateur. Il m'a dit que c'est compte tenu de leur budget. Et les autres centres, les 14 centres, seront à jusqu'au mois de mars et à partir du 1er avril, ils vont s'occuper seulement de ces trois centres de santé.
Joint au téléphone depuis Lubumbashi, le chef des missions de MSF Espagne a qualifié de trop ambitieux le programme d'appui à tous les centres de la zone de santé. Sur papier, nous avions 17 centres à gérer. En réalité, nous n'arrivions pas à avoir un meilleur suivi de tous ces centres, a expliqué M. Javier Eguren. Il a enfin précisé que l'hôpital général de Nyunzu et les centres proches du chef-lieu du territoire continueront de bénéficier de l'assistance de l'ONG internationale. Il faut noter que, pendant plusieurs années, MSF Espagne a distribué des médicaments et administrer des soins gratuits à la population de Nyunzu. Expédiment Bamoubi, Kalemi, Radio Kapi.
Et pour terminer, au Congo-Brazzaville, le débat sur la gestion de recettes pétrolières est loin d'être fini. La justice britannique a récemment révélé d'importants montages financiers organisés par les autorités, des manœuvres que reconnaît le Premier ministre. Maintenant, c'est l'opposition qui réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la situation. Nous reviendrons sur cette information avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Okapi. Okapi.